parole du jour avec le Père Willem.
Le désir infini de l'homme dans un monde clos. La croissance économique est la religion du monde moderne. Elle est l'élixir qui apaise les conflits, la promesse du progrès indéfini. Elle offre une solution au drame ordinaire de la vie des humains, qui est justement de vouloir ce qu'on n'a pas. Oui, vouloir ce qu'on n'a pas. Hélas, en Occident du moins, la croissance est devenue intermittente et fugitive. Les crashs succèdent aux booms, les booms aux crashs. Comme les sorciers qui veulent faire venir la pluie, les hommes politiques lèvent les mains vers le ciel pour la faire tomber, aiguisant le ressentiment des peuples quand elle n'est pas au rendez-vous. Tout à la recherche des boucs émissaires, le monde moderne évite pourtant la question cruciale. Que deviendra-t-il si la promesse d'une croissance indéfinie est devenue vaine? Saura-t-il trouver d'autres satisfactions ou tombera-t-il dans le désespoir et la violence? Les histoires ont parlé de croire de la conscience, mais ces derniers temps, depuis quelques décennies, on parle d'une crise de la conscience européenne pour caractériser la profonde angoisse spirituelle qui a frappé l'Europe au XVIIe siècle déjà, lorsqu'elle a découvert avec Galilée et Kepler que l'univers était vide, que les étoiles n'étaient pas la demeure des dieux. Nous avons aujourd'hui de quoi vivre une crise de même nature. C'est l'idéal de progrès qui semble se vider lorsque la croissance disparaît. La vie vaut-elle la peine d'être vécue si elle est privée de l'espérance divine? Voilà ce que se demandaient nos aïeux. Aujourd'hui, ces questions sont devenues nos vies. Seraient-elles tristes et rugueuses si la promesse du progrès matériel, nous est enlevée? Le grand économiste anglais John Maynard Keynes écrivait au tout début des années 30 pour mettre en garde contre le pessimisme de son époque, et son message d'espoir reste aujourd'hui encore rafraîchissant. Malgré la crise qui se profilait, Keynes invitait à ne pas se tromper de diagnostic. Bientôt, le problème économique sera réglé, annonçait-il, comme l'avait été un siècle auparavant le problème alimentaire. Extrapolant le rythme de la conscience et surtout ce que l'on vivait dans la croissance industrielle, cet auteur annonçait crânement qu'en 2030, les hommes pourraient travailler 3 heures par jour et se consacrer aux tâches vraiment importantes, l'art, la création, la culture, la métaphysique. Hélas, la culture et les problèmes métaphysiques ne sont pas devenus les questions majeures de notre époque, il faut le reconnaître. La prospérité matérielle demeure plus que jamais la quête des sociétés modernes, en dépit du fait qu'elles sont devenues 6 fois plus riches qu'à l'époque où Keynes faisait son pronostic. Ce grand homme avait parfaitement prévu la prospérité à venir, mais totalement échoué à prédire ce que nous en ferions. Après beaucoup d'autres, il n'a pas mesuré l'extraordinaire malléabilité du désir humain, prêt à consumer toutes les richesses lorsqu'il s'agit de trouver sa place dans le monde. Une fois que les besoins primordiaux sont satisfaits, et parfois même avant, écrit René Girard, qui vient de nous quitter il y a quelques jours, l'homme désire intensément, mais il ne sait pas quoi. Oui, il désire intensément. Car c'est l'être qu'il désire, un être dont il se sent privé et dont quelqu'un d'autre lui paraît pourvu. La croissance n'est pas un moyen rapporté à une fin. Elle fonctionne davantage comme une religion dont on attend qu'elle aide les hommes à s'arracher au tourment d'exister. À l'heure où des milliards d'humains vénèrent ce même Dieu et mettent en péril la vie sur la planète, une réflexion en profondeur est devenue indispensable. Peut-on reprendre le pronostic de Keynes, mais en l'inversant? Admettre que la croissance matérielle s'éloigne, mais essayer pourtant de s'engager dans une ère nouvelle de bonheur, psychologique, immatériel, bref, peut-on parier, vraiment parier, que le progrès tout court n'est pas devenu une idée morte? L'idée de progrès a fait l'objet d'un immense malentendu. Les Lumières, qui l'annoncent au XVIIIe siècle, en font une valeur morale, d'autonomie, lui conférant une dimension critique face à l'immobilisme des sociétés d'Ancien Régime. Elle installe pour ce faire une organisation qui lui trouve radicalement les raisons de tourner le dos à cette société. Les ingénieurs chassent les prêtres, mais la société industrielle demeure ainsi dans cette attente de réaliser une société, mais elle échoue dans sa nouveauté, car cette société demeure verticale, comme auparavant. Dans la famille, comme dans l'usine, le modèle hiérarchique de la société reste dominant. Au XXe siècle, il faut reconnaître que le fordisme, qui est l'étendard du monde industriel, conserve l'organisation pyramidale d'autrefois. Et dans le domaine privé, il faut attendre 1965 en France pour que les femmes puissent disposer d'un compte en banque sans demander l'autorisation à leur mari. Quelques deux siècles après la Révolution française, elles étaient toujours, il faut le reconnaître, sous la tutelle de leur mari pour la plupart des actes juridiques les concernant. Pour les femmes encore, pour de nombreuses catégories de la société, l'idée d'autonomie, de liberté est longtemps restée lettre morte. Et nous, que faisons-nous là où nous sommes? Est-ce que nous sommes des acteurs de la société pour la transformer et la rendre plus humaine? Sommes-nous déterminés à vivre une solidarité qui nous engage les uns les autres pour former une société qui soit respectueuse de chacun dans la diversité de ce que nous sommes, dans une société qui est en pleine mutation avec l'apport de ces innombrables migrants dont nous avons parlé récemment dans une émission de la semaine dernière? Thank you.